présente Le syndrome du spaghetti de Marie Vareil, lu par Elena Kopeyans. À mon bébé Dart, à Arthur, à Guillaume, à Olivier et, de toute évidence, à mon papa, cœur. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. La vie, c'est ce qui arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans. John Lennon. Salut, c'est moi. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. 102 jours, pour être précise. J'espère que je te manque atrocement. Ça t'apprendra. N'en déduis pas que je n'avais pas envie de te voir, ou que, vu le chaos intersidéral qu'est devenu ma vie dernièrement, je n'ai plus le temps de penser à toi. Je pense à toi à peu près 2000 fois par jour. Je vois une feuille, une salière, une voiture, un savon, je pense à toi. C'est plus fort que moi. Je relis nos textos quasiment tous les soirs. Il m'arrive même encore de reconnaître ta silhouette à la sortie du lycée ou sous un abribus. Puis, la silhouette se retourne et l'espoir s'envole. Évidemment, c'est jamais toi. Le problème quand ta vie s'effondre, c'est que personne t'avertit. Ce serait cool d'avoir une voix off, une lettre, un message WhatsApp, même un télégramme envoyé par pigeon voyageur, alerte rouge. Jusqu'ici, ta vie était normale, mais mets ta ceinture parce qu'elle va basculer dans la merde la plus totale. Bref. En vrai, chialer des baignoires les yeux fixés au plafond en écoutant Adèle à fond n'est pas une solution viable sur le long terme. En tout cas, selon Amel. Il faudra que je passe à autre chose. Comment ? Je sais pas. Même Google ne sait pas. C'est dire. J'ai cherché. Ni sur Vinted, ni sur eBay, on trouve de cœur de rechange. Je te vois sourire d'ici. Léa écrit des lettres maintenant. Pour quelqu'un qui a jamais réussi à dépasser 8-7 de moyenne en français, j'avoue que c'est ambitieux, mais j'ai rien trouvé d'autre. Je sais que ça fait longtemps que j'aurais dû aller te voir, t'expliquer la situation en face. Mais je peux pas. J'ai trop peur de te décevoir. Je suis désolée si tu t'es inquiétée de mon silence. Avant, je pensais qu'on pouvait décider de sa vie, qu'on était maître de son avenir. Mais on vit pas dans un film américain avec un happy end à la con. La réalité, c'est que le bonheur et le malheur sont distribués au hasard, par un destin sadique, complètement con, aveugle ou ivre-mort, voire tout ça à la fois. C'était la minute philosophie du jour, me remercie pas. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis les événements. Bisous. Et un de ces quatre, peut-être. Léa. Premier carton. Choc. Chapitre 1. Quand j'avais 12 ans, un type en costard a accosté mes parents dans une pizzeria. J'ai cru qu'il était le manager du restaurant et qu'il venait nous demander si on voulait du parmesan ou quelque chose dans le genre. Mais il s'est tourné vers ma mère et lui a demandé de but en blanc si j'avais déjà pensé à être mannequin. Prise de court, ce qui ne lui arrive jamais, soit dit en passant, elle est restée foudroyée par la stupéfaction, la bouteille de sauce piquante à la main. Face à son absence de réaction, le type a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table devant moi. « Appelez-moi, j'aimerais faire des essais la semaine prochaine. » Je lui ai rendu sa carte sans même y jeter un œil et j'ai répondu avec un grand sourire et très probablement un morceau de champignon coincé entre les dents. « Merci, mais ça m'intéresse pas. J'ai d'autres ambitions dans la vie que de faire des photos retouchées et à moitié à poil pour des magazines débiles. » Le type a ouvert et refermé la bouche deux fois de suite, a glissé la carte de visite dans sa poche et est sorti du restaurant. À noter que pendant toute cette scène, ma petite sœur, Anaïs, épluchait la garniture de sa pizza avec les doigts avant de l'aspirer en louchant avec un bruit de succion immonde, ce qui était particulièrement hilarant. Ne va pas croire que je suis une bombe sexuelle ou que je raconte cette histoire pour me la péter. Et soyons honnêtes, n'importe qui me connaissant depuis plus de 40 secondes sait que je préférerais manger une assiette de morve tous les midis devant Arte jusqu'à la fin de ma vie plutôt que de devenir mannequin. Il se trouve simplement que j'ai toujours été trop grande et trop maigre. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, je mesure 1m79 et je pèse 52,5 kg. Je précise, je me fais pas vomir dans les toilettes chaque fois que je mange un demi-petit pois. Et je suis pas de régime miracle à base de graines de chia et de bouillon de racines pourries comme ma mère. J'ingurgite même chaque jour autant de calories qu'il en faut pour nourrir une éléphante enceinte de quintuplé. Je ne grossis jamais, c'est ma constitution. D'où l'intérêt de ce type dans la pizzeria. En dehors de ça, je suis une fille à peu près normale. À ceci près que j'ai jamais aimé les robes de princesse, et même les robes tout court d'ailleurs. Je n'ai pas le souvenir d'avoir joué à la poupée ou à la dinette. J'ai horreur du rose, des paillettes et des froufrous. Je ne me maquille pas, je sais pas faire. La plupart du temps, je porte des jeans déchirés et des sweatshirts à capuche, et les éléments les plus féminins de ma garde-robe sont une paire de ballerines noires ignobles et une robe Zara atroce que ma mère m'a obligée à porter pour l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être parce que j'attends depuis maintenant 3/4 d'heure dans la salle d'attente de la gynéco et que je m'ennuie comme un rat décédé. Accessoirement, je risque une tendinite au pouce à force de faire défiler mon feed Instagram. Mon père, seul homme présent, assis sur la chaise Ikea à côté de moi, tourne tranquillement les pages de l'équipe. Étrangement aussi à l'aise dans la salle d'attente de la gynécologue que dans le canapé du salon à la maison. Je pousse un soupir exagéré. Et comme il ne réagit pas, je pose la joue contre son épaule. J'ai bien conscience que j'ai l'air d'une gamine débile à l'idolâtrer bêtement comme quand j'avais 8 ans et demi. Mais c'est plus fort que moi. Même quand je le déteste, je l'adore. Je m'ennuie. C'est bientôt à nous, Chouquette. Arrête de m'appeler Chouquette, je suis pas un caniche nain.
Ok, Chouquette.
On peut pas sécher. J'en ai ras-le-bol de passer ma vie chez la gynéco.
À ce point?
Il lève la tête de son journal et me dévisage comme s'il avait été persuadé jusqu'ici qu'un rendez-vous chez la gynéco était l'équivalent d'un concert de Rihanna avec passe VIP.
Je m'affale sur ma chaise, soupire à nouveau, mets mes écouteurs et sélectionne une playlist au hasard.
J'en ai ma claque de ces rendez-vous. C'est la 3e fois en 18 mois. La semaine dernière, comme chaque fois, ma mère a débarqué dans ma chambre. Je l'ai vue venir à 12 000 kilomètres. Elle m'a demandé l'air de rien comment allaient Amel et Nico, comment s'était passée ma journée. Au bout de 3 minutes, elle a balancé très vite sans lever la tête. Et sinon, côté garçon, rien de nouveau ?
Arrête avec ça.
Tu me dirais si t'envisageais de... Enfin, tu sais.
Je suis devenue rouge comme une tomate et j'ai marmonné.
J'envisage rien du tout, arrête. Et évidemment que je lui aurais rien dit du tout si j'envisageais de... Enfin, tu sais. Ma mère est tombée enceinte de moi par accident quand elle avait 20 ans. Ils ont beau dire que ma naissance a été le plus beau jour de leur vie, l'idée que la même chose puisse m'arriver est leur pire angoisse. Heureusement que je suis pas susceptible, d'ailleurs. Sinon, je pourrais mal le prendre.
Elle est probablement la seule mère au monde qui rêve de me mettre sous pilule depuis mes 10 ans et demi.
Depuis que j'ai eu mes règles, je dois aller chez la gynéco 2 fois par an. En général, elle m'explique sur le trajet ce que signifie l'expression « secret médical » et insiste sur le fait que je peux poser au médecin toutes les questions qui me passent par la tête, vu qu'il n'a rien le droit de lui répéter. Une fois, elle m'a même demandé si je préférais qu'elle attende dans la voiture. Quand je ressors du cabinet, elle me dit systématiquement
« Si tu as une ordonnance, on peut passer à la pharmacie. »
Comme je n'ai jamais d'ordonnance, on rentre à la maison.
Léa Martin ?
On se lève simultanément avec mon père.
Je le toise, un peu étonné.
Tu peux pas venir avec moi ?
Je sais, mais je voudrais juste parler rapidement en privé au médecin. Ok ?
Je me rassois, interdite.
La femme enceinte sur la chaise d'en face lui jette un regard surpris quand il entre dans le bureau à ma place. Il n'a pas vraiment une tête à s'appeler Léa Martin.
Il ressort quelques minutes plus tard, me fait un clin d'œil et serre la main du médecin qui me dit en souriant
« À ton tour, Léa ».
La porte se referme derrière moi et je m'assois devant son bureau. Elle me pose les questions habituelles. Non, je n'ai pas de copain. Non, je ne suis pas sexuellement active. Avant de me demander de me déshabiller. Je retire à contre-cœur mon jean et ma culotte et mets les pieds dans les étriers.
Je déteste ça.
Heureusement que c'est une femme, jamais de la vie je n'oserais faire ça devant un homme.